Molière est parmi les grands hommes celui dans la France pourrait le moins aisément se passer. Molière est nécessaire. Il est une preuve permanente. Et l'on a constamment l'occasion de clouer le bec à des gens qui voient faux en leur disant « Eh bien, et Molière ?» Quand on parle d'un homme que l'on admire et que l'on aime sans réserve, quand on s'exprime sur son compte en termes éperdus, quand on n'a plus de mots qui semblent assez forts ni qui soient assez tendres, quand les gestes s'en mêlent et qu'on lève les yeux au ciel, il se trouve toujours quelqu'un de pondéré pour briser votre élan et pour insinuer « ce n'est tout de même pas le bon Dieu ». Eh bien, quand nous parlons, nous autres, de Molière, superlativement, si quelqu'un s'avisait de nous dire « ce n'est tout de même pas le bon Dieu », nous répondrions « si ».
Histoire 2, Patrick Boucheron sur France Inter.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mais oui, Sacha Guitry, vous avez raison, Molière c'est la France. Nous y parlons la langue de Molière et la comédie française et la maison de Molière. Qu'a-t-il à faire des marbres froids du Panthéon? Il y est déjà, hissé sur les tréteaux de nos mémoires, des bancs d'écoliers aux scènes du monde. Molière c'est la France et j'ajouterais même, la France c'est la France. Alors, que faire de Molière quand on fait de l'histoire? À l'heure des célébrations nationales du 400e anniversaire de sa naissance, certains se croient encore à la cour de Louis XIV et prétendent pratiquer l'histoire comme un art d'acclamation. D'autres, mais parfois ce sont les mêmes, en font une technique de détestation, affirmant une fois de plus qu'elle n'est rien d'autre que le gai savoir de la compréhension. Pour comprendre Molière, peut-être faut-il commencer par le décentrer, car dans l'éblouissement de la gloire nationale, on n'y voit rien. Décentrer Molière, c'est-à-dire le sortir de ce jeu de miroir entre le dieu du théâtre et le roi soleil pour l'observer dans son monde, celui des libraires, des imprimeurs, des gastiers, des acteurs, bien entendu. C'est le projet de l'historienne Sylvaine Guyot que nous recevons aujourd'hui pour restituer Molière dans son paysage documentaire. Elle sera rejointe dans la seconde partie de l'émission par notre autre invité, le philosophe Paul Audy, qui nous initiera aux joies de la lecture insistante d'une réplique de Molière, ou plutôt d'une riposte. Puis, par notre sociétaire du jour, Thierry Sarment, avec qui nous évoquerons aussi les démêlés de notre auteur avec l'absolutisme. Le rideau se lève, c'est parti. Sylvaine Guyot, bonjour.
Bonjour Patrick Boucheron.
Vous êtes professeur de littérature et d'histoire du théâtre à NYU, la prestigieuse université de New York. Vous y organisez d'ailleurs, avec Yale, le colloque décentré Molière auquel je faisais allusion. Et vous co-dirigez également le programme de registre de la comédie française. Vous faites aussi plein d'autres choses dont on reparlera. Vous avez fait un très beau livre en 2014 sur Racine et les corps tragiques et vous êtes metteuse en scène. Mais ce corps à corps, justement, avec le théâtre, si j'ose dire, il passe aussi par une saisie sensible et savante de sa documentation. Alors, puisque c'est une émission d'histoire, je pose une question toute simple. Avec quoi on fait l'histoire de Molière? Sur quel socle documentaire?
Alors, on a un socle documentaire extrêmement varié et un éventail de sources sur lesquelles s'appuyer pour faire l'histoire de Molière. Et peut-être, au fond, cinq corpus de documents différents. Le premier, ce serait les sources archivistiques que constituent les actes notariés, majoritairement parisiens. On a une soixantaine d'actes qui portent la signature autographe de Molière et qui nous renseignent sur l'histoire, disons, matérielle et géographique de la troupe de Molière. On a par exemple une cinquantaine d'actes d'état civil, de contrats, de quittances en province qui permettent de retracer approximativement toutes les villes où Molière et l'illustre théâtre s'est déplacé pendant les 13 années avant son retour à Paris en 1658. On a également les contrats pour les travaux de maçonnerie et charpenterie pour l'aménagement du Palais Royal en 1660. On a aussi les commandes devant notaire pour les décors somptueux de Don Juan ou encore l'inventaire des costumes de théâtre contenus dans l'inventaire après décès de Molière.
Tout ça, c'est l'Atlas Molière d'ailleurs qui vient de paraître, en fait une infographie et ça documente finalement la troupe, une histoire matérielle du théâtre.
Oui, tout à fait. Et je crois que l'extrême au fond, ingéniosité de cet atlas Molière, au-delà de son apparence quelque peu ludique, c'est de, à travers les représentations visuelles, d'imposer une sorte de pensée profondément relationnelle de Molière, qu'on doit effectivement considérer dans ses relations avec toute une équipe, en quelque sorte, de collaborateurs, parmi lesquels interviennent évidemment les décorateurs, les musiciens, les costumiers, etc.
Dans ce paysage documentaire, il n'y a pas de lettres, par exemple. Il peut y en avoir pour Racine une centaine. Et évidemment, le fait qu'il y ait peu de documents autographes ou biographiques ou autobiographiques sur Molière alimente tous les fantasmes, tous les prétendus mystères à déchiffrer.
Alors absolument, on est là avec un cas relativement commun au XVIIe siècle, où on n'a aucun manuscrit de la main de l'auteur, au-delà de ses donc signatures autographes, qui d'autant plus, alors disons machine à fantasmes, puisque l'histoire de la troupe est également documentée par un ami proche de Molière, qui était son bras droit et collaborateur Lagrange, va rédiger a posteriori en 1682, à partir disons de 1680-82, on ne sait pas exactement, les fameux registres.
Mais qui ne sont pas écrits au jour le jour.
Qui ne sont pas écrits au jour le jour, contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, qui retracent la programmation, les recettes de la troupe de Molière, la distribution des pièces, et qui permettent donc, de faire une histoire économique et une courbe du succès, en quelque sorte, d'établir une courbe du succès des pièces jouées par Molière.
Oui, Lagrange, d'ailleurs, il a amassé cette documentation, sans doute parce qu'il avait l'idée d'en faire une vie, mais je crois qu'il est mort en 1692, il n'a pas eu le temps de le faire.
Et
vous, ça vous intéresse comme historienne de la littérature et aussi de la pratique théâtrale, et avec l'équipe des registres de la Comédie Française, vous faites une histoire concrète de la représentation, du succès aussi, des polémiques, parce que c'est un champ de conflits et de rivalité que le théâtre au XVIIe siècle.
Alors, tout à fait. Alors là, ce serait peut-être le troisième ensemble de sources qu'on peut identifier et sur lesquelles on peut s'appuyer, disons, pour retracer quelque chose d'une histoire du théâtre moliéresque, qui est l'ensemble des discours de l'époque, que ce soit les gazettes et les journaux qui circulent abondamment dans cette nouvelle culture des médias et de l'information qui est celle du second XVIIe siècle, mais aussi les autres pièces de théâtre qui commentent les créations récentes de Molière de façon généralement satirique et polémique. Et puis évidemment, les textes mêmes de Molière, les paratextes, on peut citer par exemple les placets que Molière adresse au roi dans l'histoire de l'interdiction du Tartuffe. Tous ces textes, évidemment, posant la question de quel crédit leur accorder, puisqu'ils sont produits dans un contexte de polémique renouvelée, et ce sont pour la plupart des textes soit d'éloges, de défense, d'offensives.
Et dans ce massif documentaire, évidemment, ce qui peut manquer, mais ce qui manque à tout coup, au fond, avec le théâtre du XVIIe siècle, c'est des manuscrits autographes des pièces elles-mêmes stabilisées. Parce que d'une certaine manière, Roger Chartier l'a montré, tout bouge. La main de l'auteur ne peut pas retenir cette circulation, cette mobilité textuelle. Parce que c'est du théâtre, au fond. Est-ce qu'on peut pas dire simplement que Molière est un écrivain de plateau?
Oui, alors effectivement, on a ce cas finalement où la seule chose dont on dispose, ce sont les textes imprimés à l'époque, qui tiennent lieu, comme le dit Antoine Joly, qui est un éditeur du XVIIIe siècle, des manuscrits qui manquent. Et le problème évidemment de ces textes imprimés, c'est qu'il est difficile de dire dans quelle mesure ils ont subi l'intervention des imprimeurs, dans quelle mesure il reflète le contrôle absolu de l'auteur, et dans quelle mesure il manque probablement l'intervention des comédiens, sachant qu'il y avait très probablement dans la troupe de Molière familière de la Commedia dell'arte une grande place laissée à l'improvisation.
Mmh. Et donc il y a toujours de la parole qui manque, comme vous le dites. Mais justement, il y a quelque chose qui m'intéresse, Sylvain Guyot, c'est que depuis sa fondation en 1680, la Comédie Française a joué plus de 3000 fois le Tartuffe. C'est le record du répertoire. Or, depuis le 15 janvier, la maison de Molière, comme on dit, donne un Tartuffe mis en scène par Ivo van Hove, dont le texte originel a été retrouvé, restitué par Georges Forestier, qui est la grande autorité en la matière. C'est l'éditeur dans la Pléiade, c'est son biographe. Mais comment a-t-il fait? Expliquez à un simple médiéviste, parce que moi je dis de la presse et je vois que Georges Forestier dit « j'ai gratté le texte, j'ai appliqué une archéologie théâtrale, j'ai fait de la génétique ». Mais comment on fait de la génétique quand on n'a pas d'avant-texte, en fait? Qu'est-ce que c'est que ce Tartuffe en trois actes qui serait originel?
Alors, le Tartuffe en trois actes original, qui effectivement n'a jamais été publié du vivant de Molière, ni depuis le XVIIe siècle, pour le reconstituer ou le restituer, Georges Forestier s'inscrit en quelque sorte dans la tradition, au fond, de la philologie éditoriale du XIXe siècle, qui a été établie par Karl Lachmann à partir de l'étude des manuscrits médiévaux, et qui consiste à reconstituer les textes perdus à partir des versions existantes, amendées et complétées, par des sources connexes. Alors, qu'est-ce qu'a fait Georges Forestier ? Il s'est appuyé sur les comptes rendus de l'époque, les correspondances de l'époque et le registre de Lagrange que j'évoquais à l'instant, pour établir que le premier Tartuffe composait trois actes qui formaient non pas une ébauche incomplète, mais un tout fini.
C'est-à-dire le premier Tartuffe, celui qui a été présenté le 12 mai 1664 à Versailles, à la cour de Louis XIV, et qui a été
immédiatement interdit par le roi.
Et donc celui que l'on connaît, que l'on joue, c'est celui de 1669.
Tout à fait, et qui lui est en cinq actes.
Oui.
Donc il a établi effectivement la composition en trois actes de ce premier Tartuffe, en considérant qu'il ne s'agissait donc pas là d'une version incomplète, que Molière n'aurait pas terminée. Et il sélectionne à partir de là les trois actes qui correspondent au scénario topique de la comédie italienne dont Molière se serait inspiré. Donc là, c'est une méthode génétique qui mobilise en quelque sorte les sources possible et les influences potentielles de Molière pour proposer ce qui relève au fond d'une hypothèse.
Oui, c'est une hypothèse au fond.
Tout à fait.
Et on comprend finalement pourquoi une telle entreprise fait impression. On retrouverait un texte plus vrai parce qu'il est plus court, plus percutant, plus cruel, écrit Fabienne Darge dans Le Monde. Un texte d'avant la censure, d'avant les compromis, d'avant les dénaturations diverses. Donc qui satisfait à la rhétorique actuelle de l'authenticité. Mais vous, ce que vous dites, Sylvaine Guyot, comme historienne et aussi comme metteuse en scène, puisque vous allez mettre en scène dans une traduction anglaise avec Gideon Lester un Don Juan aux États-Unis, c'est que finalement il faut faire la part de l'interprétation, c'est-à-dire le théâtre c'est ça, c'est ce qui se rend disponible à toutes les interprétations.
On retrouve beaucoup dans la rhétorique actuelle ce triptyque entre recherche de l'authenticité, efficacité scénique et qualité littéraire du texte reconstitué. Et il me semble qu'on a là, au fond, l'idée d'un texte véridique, stable, qui serait le produit des seules intentions de l'auteur, idée qui, en fait, efface la réalité de la fabrique historique du texte théâtral. Fabrique historique à laquelle contribuent les comédiens par improvisation, l'intervention des libraires imprimeurs, à qui il arrivait très souvent de faire tout autant des erreurs que des amendements, et également une pratique d'adaptation par la troupe ou par l'auteur en fonction des différents contextes de représentation. Et il me semble que, au fond, l'idée même d'un état du texte stable réduit considérablement la nature même du théâtre. Comme vous le disiez, c'est un texte mouvant par excellence. S'il devait y avoir un état du texte pour chaque étape de son existence, il en faudrait finalement un par soir de représentation.
Histoire 2. Patrick Boucheron sur France Inter.
Thierry Sarment, bonjour. Dans notre illustre théâtre, vous êtes le spécialiste de Louis XIV. Alors, vous n'allez pas nous décevoir. Louis XIV et Molière, ils étaient très copains, non ?
Alors, les historiens de la littérature l'imaginent volontiers.
Ouais.
Les historiens de la politique sont peut-être plus réservés.
Ah, vous allez l'être aussi.
Je le crains bien.
Bon, on va voir ça après Billie Eilish, qui, elle, se met à la bossa nova.
Comes without a warning, 'cause waiting for it gets so boring. A lot can change in 20 seconds. A lot can happen in the dark. Love when it makes you lose your bearings. Some information's not for sharing. Use different names at hotel check-ins. It's hard to stop it once it starts.
Qui lui consacre des colloques, à la Comédie Française qui a concocté une superbe saison Molière, à Versailles où l'on peut voir une exposition sur la fabrique de cette gloire nationale. On en parlera toute l'année, c'est son année, et encore cet été au Festival d'Avignon et dans le château de Grignon où l'on jouera les fâcheux. Cette géographie de la célébration est celle de la reconnaissance institutionnelle. Avec Sylvaine Guyot, rejointe par Paul Audy et Thierry Sarment, nous nous interrogeons donc sur la portée politique du théâtre de Molière. Alors, Thierry Sarment, les auditeurs savent que vous êtes très friand de peinture d'histoire. Je reprends mon bâton de pèlerin, je remonte à la charge quand même du Molière honoré par Louis XIV de Garneret en 1824 jusqu'au Molière à la table de Louis XIV, dingue en 1857. La familiarité de l'homme de théâtre et du souverain, c'est un grand thème de l'imagerie. Ne nous décevez pas, s'il vous plaît.
Ces tableaux qui reprennent ce thème et que l'on voit partout reproduit viennent d'une anecdote rapportée par Madame Campan, ancienne femme de chambre de Marie-Antoinette. Et Madame Campan prétend tenir de son père, qui elle-même tenait du médecin Louis XIV, le fait que Molière ayant été méprisé par les courtisans, Louis XIV l'aurait invité à sa table dans sa propre chambre. Donc on voit sur le tableau la chambre du roi et derrière la barrière qui sépare le roi des courtisans, la table dressée. Et Molière attablé avec Louis XIV.
Mais là, on est en 1822, là, on est un peu tard quand même. Hein.
Donc on est un peu tard, et en fait, cette scène est à peu près impossible. Elle est même très certainement impossible, mais elle a pénétré tellement les consciences qu'encore aujourd'hui, la plupart des gens sont persuadés qu'il y a une forme d'amitié, de complicité, de familiarité entre Louis XIV et Molière, et je pense qu'on peut sérieusement moduler ce mythe.
Mais vous allez même plus loin, Thierry Sarment, en tant qu'historien de la monarchie Louis XIVienne, c'est que vous dites, finalement, ça ne l'intéressait pas tant que ça, le Roi Soleil, la musique, le théâtre, la littérature.
Mais le Roi Soleil, il est comme nos présidents de la République, c'est-à-dire que son premier intérêt, c'est la grande politique, c'est la guerre, c'est la diplomatie, et le reste a un rôle, évidemment, dans la propagande, dans la glorification du régime. Il y a cette volonté d'éblouir dont on va parler. Mais malgré tout, pour Louis XIV, Molière, c'est d'abord un amuseur.
Oui, c'est la question, au fond, qui nous occupe, c'est de mettre en doute cette trop commode notion de propagande. Sylvaine Guyot, vous préparez un livre sur les scénographies de l'éblouissement dans le théâtre classique. On peut frapper les esprits comme on frappe la monnaie, c'est vrai. On peut éblouir pour assujettir. Mais la force du théâtre, dites-vous, elle n'est pas dans l'éblouissement unanime. Son charme est plus discret parce qu'il se glisse dans ce que vous appelez les interstices de l'absolutisme. Qu'est-ce que c'est ?
Alors effectivement, ce projet consiste à, au fond, interroger la pertinence de la notion de clarté, d'éblouissement, de brillance, de magnificence et de propagande pour rendre compte de la culture spectaculaire du XVIIe siècle. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer qu'il s'agit précisément bien d'une culture spectaculaire, à savoir que ces modes éblouissants de spectacle ne cessent d'être questionnés, confrontés à leurs limites, concurrencés même par d'autres modèles, à l'intérieur des œuvres dont on attendrait précisément pas a priori la moindre velléité de subversion.
Oui.
Donc les œuvres qui sont précisément produites dans le contexte curial et politique. Ce que j'appelle les interstices ici, qui est une notion que j'emprunte à la sociologie urbaine et à l'histoire de l'art, c'est précisément des points de discontinuité dans l'uniformité du discours politique, sans que l'on puisse nécessairement faire la part entre la part de la liberté laissée par le système et de la résistance mise en œuvre par les individus qui instaurent ces interstices. C'est-à-dire, dans le cas du théâtre, ce qui laisse au spectateur la liberté d'entendre ou d'ignorer la critique que le spectacle par son dialogisme, par la réflexivité qu'il engage à l'égard des émotions qu'il produit lui-même, la critique donc qu'il formule à l'égard du discours dominant.
Oui, Thierry Sarment, on se souvient de Clémenceau qui disait « La révolution est un bloc, mais l'absolutisme ne l'est pas un bloc ». C'est-à-dire qu'il est faillé. Et effectivement, ce dont parle Sylvaine Guyot, ce sont des usages plus subtils, au fond, des rapports entre l'art et le pouvoir.
Ça nous mène évidemment à la question de Tartuffe. Tartuffe qui est peut-être dans le fond, dans l'intention profonde de Molière, une charge contre l'Église, contre la religion, mais qui sera présentée plutôt, aux yeux de Louis XIV, comme une charge contre les dévots, contre une faction dévote. Oui. Et la monarchie absolue, ce qu'elle déteste, ce sont les factions, quelles qu'elles soient.
Et là encore, cette image très forte d'un Molière contre les dévots, elle est sinon inventée, du moins réactivée par la Troisième République, qui en fait justement une gloire nationale. Ça se voit très bien dans l'exposition à Versailles et dans le livre de Martial Poirson. Paul Audy, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes philosophe, vous êtes un philosophe de la création, puis vous êtes également un philosophe créatif, parce que vous faites de toute lecture une création. Vous en aviez planqué une, si j'ose dire, une lecture de Molière dans un gros livre qui s'appelle « Créer », et vous la republiez aujourd'hui sous le beau titre « La riposte de Molière ». C'est la lecture de la fameuse tirade du tabac, « Don Juan », acte 1, scène 1, étrange scène d'exposition qui adresse directement au public une profession de foi dans la philosophie matérialiste. Écoutez.
Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens. Et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes à la vertu. Et l'on apprend avec lui à devenir honnête homme. Ne voyez-vous pas bien, dès qu'on en prend, de quelle manière obligeante on en use avec tout le monde ? Et comme on est ravi d'en donner à droite et à gauche, partout où l'on se trouve, on n'attend pas même qu'on en demande. Et l'on court au-devant du souhait des gens, tant il est vrai que le tabac inspire des sentiments d'honneur et de vertu à tous ceux qui en prennent. Mais c'est assez de cette matière, reprenons un peu notre discours.
Si bien donc, et c'est comme ça que ça reprend, vous avez peut-être reconnu Jacques Charon. Alors, effectivement, ce dont on se rend compte, Paul Audy, c'est que ces deux hommes étaient en train de discuter, la levée du rideau interrompt leur conversation, et ça diffère donc une scène d'exposition, ça interrompt une discussion qui ne portait pas sur le tabac. Et qu'est-ce que c'est que ce valet qui s'en prend à Aristote et à toute la philosophie ?
Alors d'abord, je pense qu'il faut que je précise tout de suite que lorsque ce valet prend la parole et qu'il s'avance sur le rebord de la scène pour regarder le public, c'est Molière qui joue le rôle de Sganarelle. Et donc c'est Molière lui-même qui s'adresse au public. Molière ne jouait pas le rôle de Don Juan, il jouait Sganarelle. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, cette sorte de préface à l'intérieur d'une pièce est tellement singulière, elle est tellement rare, puisque ce n'est pas une véritable scène d'exposition à proprement parler, puisque elle ne dit rien de ce qui va se passer ensuite. Elle est en quelque sorte collée à cette pièce. Et l'idée, si vous voulez, c'est d'essayer de la comprendre non pas à partir de la pièce elle-même, ce qu'on a toujours fait, mais à chaque fois qu'on l'a fait, le problème, c'est que on ne peut pas expliquer certains mots de la tirade.
Et il y en a un qui vous a intéressé, c'est Purgé.
Alors, il y en a d'abord un premier, puisque je suis philosophe, qui m'a évidemment interpellé, c'est Aristote, c'est le mot de philosophe aussi. Et c'est la connexion entre passion et purgé. Alors quand on a l'oreille philosophique et qu'on a un peu fréquenté la poétique d'Aristote, eh bien on s'aperçoit que ces mots, quand ils résonnent ensemble, doivent peut-être se référer à ce fameux traité. C'est une hypothèse de départ.
C'est-à-dire le traité de la poétique d'Aristote, exactement, où il disait que la catharsis tragique consistait par l'effroi et par la terreur à purger les âmes humaines des passions, Sylvaine Guyot. Mais là, on peut pas purger, puisque le tabac est censé purger les cerveaux humains, mais il purge pas les cerveaux
il ne purge,
humains.
Il ne purge pas c'est la les comédie. Passions, en tout cas. Il ne purge pas les passions. Alors pourquoi a-t-il voulu que le tabac purge les cerveaux humains et pas les passions? Ben, c'est précisément ce que l'enquête révèle, si vous voulez. C'est une enquête un peu minutieuse où j'ai essayé de montrer que ce qui se jouait là ne pouvait se comprendre que par l'actualité immédiate de Molière.
C'est-à-dire le Tartuffe.
C'est-à-dire le Tartuffe et l'interdiction du Tartuffe. Et plus que l'interdiction du Tartuffe elle-même, l'échec du premier placé que Molière adresse au roi pour que la pièce puisse être reprise, et le roi fait sourde oreille.
Oui.
Le roi impose la cessation de la pièce, et c'est face à ce vide, à ce silence, face à ce néant, et face aussi à toutes les attaques que Molière essuyait à ce moment-là, que Molière se doit d'inventer une forme de riposte pour essayer de dire sa vérité et essayer d'exprimer ce qu'il en est du théâtre.
Oui, parce que riposter, c'est pas répliquer. Riposter, c'est changer de terrain, et c'est être là où on est fort, et c'est aussi monter en généralité, parce que ce qui est en jeu, si on vous lit bien, Paul Audy, c'est la défense non seulement du Tartuffe, mais de la comédie, hein, comme genre, et puisque dans la préface de 1669, Molière affirme on doit approuver la comédie du Tartuffe ou condamner généralement toutes les comédies. Et donc, ce que la comédie purge dans les cerveaux humains, c'est, je vous cite, Paul Audy, l'opinion erronée qui en vient à occuper l'entendement humain et aliéner ainsi la liberté de l'esprit. Donc vous, Sylvaine Guyot, j'y reviens, vous êtes une historienne de la tragédie, mais reconnaissez que, si on croit Paul Audy, ça donne aussi un rôle très important à, on dit la comédie, mais au fond le théâtre moderne profane.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, l'affaire du Tartuffe là, joue un rôle essentiel dans le déplacement que vous évoquiez à l'instant, puisque dans ce premier placé au roi, Molière ne définit plus la fonction de la comédie comme étant faire rire les honnêtes gens, mais comme corriger les vices du monde. Mmh. Donc, il y a une sorte à la fois, évidemment, d'entreprise tout à fait stratégique de légitimation de la comédie, mais aussi, plus largement, de repenser quelle est la fonction du théâtre, qui est une fonction avant tout sociale. Et Marine Roussillon, dans un article récent, d'ailleurs, allait même jusqu'à penser la dimension fondamentalement engagée du théâtre qui se joue à ce moment-là, au tournant de la mi-année 60, 1660.
Paul Audy.
C'est une fonction tellement sociale, justement, que pour la première fois sur le théâtre français, il y a un auteur qui s'avance et qui parle en tant qu'auteur et non pas en tant que comédien. Endossant le costume du comédien, mais qui s'adresse pour la première fois au public. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire, oui. Parce que l'échec, si vous voulez, de la protestation ou du plaidoyer que l'on adresse au roi va se transformer en une forme de plaidoyer sans plaidoirie qui s'adresse au public lui-même pour que le public puisse trancher de la vérité du théâtre. Et ça, c'est tout Molière, si vous voulez. C'est-à-dire que Molière ne va plus s'adresser aux seuls puissants, il va s'adresser à ceux à qui il s'est toujours adressé, ce public, à la fois populaire et pas populaire, qui est dans la salle et qui va comprendre parfaitement ce dont il s'agit, puisqu'il est au fait de la persécution qu'il est en train de subir.
C'est ce que vous appelez, dans ce petit livre, la riposte de Molière, paru chez Verdier, ben, précisément sa riposte, sa capacité à, au fond, cacher un sujet d'actualité dans un autre, parce qu'on parlait effectivement au XVIIe siècle des vertus du tabac, et tout en sachant qu'il ne rentrera pas dans ses frais, d'où la dernière parole d'ailleurs, oui, qui a fait couler autant d'encre que la première, tout le monde est content, il n'y a que moi seul de malheureux, mes gages. Mais d'ailleurs, sur cette dernière réplique, Sylvaine Guyot, je signale un beau chapitre du dernier livre de Roger Chartier, paru l'année dernière, sous le titre « Éditer et traduire, mobilité et matérialité des textes », parce que cette chute, elle est conforme au dénouement de la pièce telle qu'elle fut présentée 15 fois au Théâtre du Palais Royal en février-mars 1665, mais elle n'est plus dans les œuvres publiées par Armand de Béjart en 1682, 10 ans après la mort de Molière. Donc on retrouve notre conversation de tout à l'heure, le texte est instable.
Tout à fait.
J'aimerais dire qu'il est aussi instable pour des raisons internes, c'est que Tartuffe, nous en avons en fait 3 versions, et chacune est différente de l'autre. Celle que nous connaissons est la dernière version, c'est un peu comme des poupées gigognes, la première à 3 actes, la deuxième à 4 et la troisième à 5 actes. Mais ce qui se joue justement dans l'addition de ces actes est absolument passionnant, puisque ce qui se joue là tient compte justement de l'histoire présente de Molière, et ce qui s'est passé justement d'abord en 1667, au moment de la deuxième version, et en 1669. Donc, on peut aussi, à travers la lecture de ces pièces, reconstituer les enjeux et les querelles de l'époque qui ont imposé à Molière de modifier sa pièce.
Je voudrais, pour terminer, vous faire entendre Ariane Mnouchkine en 1978, l'année de son Molière qui a marqué les esprits et qui, justement, nous parle de ce rapport entre comédien et tragédien.
Il était quand même, faut bien dire, attiré tout le temps par le théâtre du beau monde. Et le théâtre du beau monde, c'est pas la farce, c'est la tragédie. Et il s'est toujours...
C'était lui le bourgeois gentilhomme.
Mais oui, il a un côté comme ça, c'est-à-dire il se voyait en tragédien, il s'est toujours vu en tragédien, il a voulu écrire une tragédie, il s'est cassé la figure. Il n'est pas sûr d'ailleurs, hein. Il n'est pas certain qu'il était si mauvais tragédien que ça, mais en tout cas, il ne savait pas jouer la tragédie comme on voulait la jouer à l'époque. Et là, il a eu une espèce d'entêtement dans l'échec à ce niveau-là, incroyable, malgré tous les conseils. Alors que, comme acteur comique... Et ça, on le sait, je dirais même et surtout par ses ennemis, comme acteur comique, je pense, moi, que le seul qu'on puisse lui comparer, probablement, c'est Chaplin, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un grand rapport, hein, je veux dire. Et c'était un acteur comique prodigieux.
Alors, Ariane Mnouchkine compare Molière à Chaplin, mais vous, Thierry Sarment, vous le compariez à Louis de Funès.
Oui, Louis de Funès par rapport au général de Gaulle. Après, malgré tout, la question entre Louis XIV et Molière est un peu plus sérieuse, l'enjeu est un peu plus sérieux. Faut bien se représenter que Louis XIV, il n'entend pas que le discours de Molière, tel que nous l'avons par les préfaces, les placets. Il entend aussi le discours des dévots. Et les dévots sont loin d'être des imbéciles. En fait, ils ont bien vu que Molière, derrière tous les masques qu'il porte, et que nos invités ont réussi à lui arracher, eh bien, c'est un athée. Mmh. C'est un athée, et du coup, un athée qui n'avoue pas son athéisme. Mais les dévots et le clergé l'a très bien compris. Et donc, Louis XIV, il voit bien cette contradiction devant laquelle il est placé, entre un artiste qu'il apprécie, qu'il amuse, qui peut aussi ridiculiser ses ministres, ce qui lui est pas forcément désagréable, mais en même temps, quelqu'un qui remet en cause le fondement même de la monarchie. Parce que dire « je crois que 2 et 2 font 4 et 4 et 4 font 8 », c'est déjà mettre fin à la monarchie absolue.
Mais je voudrais revenir aussi, après ces fortes paroles, Sylvaine Guyot, sur ce que vient de dire Ariane Mnouchkine, enfin ce qu'elle vient de dire en 1978. Molière était-il vraiment un tragédien raté? C'est ce que disait la troupe concurrente, hein, celle de l'Hôtel de Bourgogne, mais en fait la compagnie théâtrale de Molière, l'illustre théâtre, puis les comédiens du roi, jouaient aussi beaucoup de tragédies de Corneille. Donc, On est aussi dans votre monde, le monde tragique.
Oui, tout à fait. Alors là, on est avec un autre mythe, comment dire, bio-professionnel autour de Molière, hein, de Molière, mauvais acteur tragique, qui en fait apparaît dans les sources, dans deux textes qui sont des textes de querelle. Hein. C'est une description de ce Molière soufflant et gesticulant qui apparaît dans la réponse à l'impromptu de Versailles de Donodvisé et dans l'impromptu de l'hôtel de Condé, qui est aussi une réponse à l'impromptu de Versailles par Montfleury. Deux pièces de querelle, donc, qui, au fond, répondent en retournant la parodie ridicule que Molière avait donnée des acteurs de la troupe rivale. Et au moment où ils décrivent Molière dans le rôle de la mort de Pompée, je crois, ça fait plus d'un an et demi que Molière n'a pas joué ce rôle, donc on voit bien qu'on est là dans une sorte de circulation, finalement, de sorte de scénario polémique qui va, pour très longtemps, hein, figer cette image d'un Molière comique par défaut, en quelque sorte. Et on entend bien là-dedans, d'ailleurs, au fond, le manque de légitimité qui reste attaché à la pratique de la comédie.
Paul Audy, un dernier mot peut-être.
Je crois que c'est très juste. C'est ce manque de légitimité de la comédie que Molière a constamment combattu et qu'il a combattu en imposant une poétique nouvelle de la comédie. C'est ça qui est quand même extraordinaire, c'est qu'il a essayé de donner une légitimation intellectuelle, sociale et politique à la comédie elle-même.
Merci à toutes et à tous, merci Thierry Sarment pour avoir arraché les masques, merci à Paul Audy pour avoir lu avec insistance et merci à Sylvaine Guyot pour interpréter avec passion le théâtre classique. Cette émission a été préparée par Ophélie Vivier, réalisée par Claire Destacan et Xavier Pestugia. Elle est en réécoute sur le site d'Inter et en podcast sur l'application de Radio France. Molière a aussi fait l'objet d'un podcast produit et présenté par Philippe Collin. Je vous en conseille l'écoute. La technique était assurée aujourd'hui par Alix Barrois. Vous retrouverez toutes les références bibliographiques sur le site de France Inter, à la page de notre émission. La semaine prochaine, nous recevrons l'historien Vincent Lemire pour son livre « Au pied du mur, vie et mort du quartier maghrébin de Jérusalem ». Bon dimanche sur France Inter.